Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAE, l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés et Pedro Araos, responsables du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Haïti est toujours à l'ordre du jour. Alors que le pays a connu 3 journées de grève générale cette semaine contre la terreur des gangs, l'Organisation internationale des migrations a donné une nouvelle illustration de l'aggravation de la situation, expliquant que la moitié des 310 déplacés l'avaient été durant la seule année dernière, rapporte RFI.
Une nouvelle journée de grève générale ce mardi en Haïti. Hier, le mouvement a été largement suivi. On l'a vu notamment dans les écoles ou dans les transports. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le directeur de l'agence haïtienne Alter Press. Bonjour Godson Pierre.
Bonjour Anne.
Port-au-Prince a vraiment fonctionné au ralenti hier.
Tout à fait. Et même aujourd'hui, il y a une petite tendance à la reprise, surtout au niveau des activités dans quelques stations de véhicules de transport en commun en périphérie de la capitale. Il faut encore observer le début de matinée pour évaluer la situation. Mais là, comme vous le dites, c'était une paralysie globale des activités générales, particulièrement scolaires, pendant que de violentes tensions sont observées dans plusieurs villes d'Haïti. Ceci à l'occasion de cette grève de 3 jours appelée par des syndicats contre la terreur des gangs. Beaucoup d'établissements scolaires ont été fermés à Port-au-Prince. Le nombre très réduit de véhicules privés de transport en commun dans les rues, commerce formel et informel très timide, détonations aussi, tensions dans plusieurs quartiers.
Et la situation, Godson, était assez similaire dans plusieurs autres villes du reste du pays.
Oui, des mouvements de protestation même dans plusieurs régions, notamment dans la Grande Anse au sud-ouest du pays, où une personne a été tuée par balle au cours d'une manifestation antigouvernementale dans la commune de Roseau, précisément. Forte tension au Caï, dans le sud du pays, à Wanamet, dans le nord-est, au Gonaïve et au Cap-Haïtien, dans le nord.
Et dans ce contexte de très grande tension que vous évoquiez, l'influence de la BESAP, cette brigade qui avait grandi hors de tout contrôle du gouvernement, semble inquiéter de plus en plus les autorités qui interdisent désormais à ses membres de sortir armés ou en uniforme.
Désormais, en effet, aucun agent environnemental muni d'armes à feu, quel qu'il soit, et sous aucun prétexte, n'est autorisé, en uniforme ou non, à circuler dans les villes, selon un communiqué gouvernemental. Ces agents de la BESAP avaient manifesté leur colère après la révocation de leur chef, Jean-Tel Joseph, la semaine dernière. Une commission a été mise en place pour revoir ce corps. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Environnement, demande maintenant à tous les employés, toutes les personnes attachées à l'institution, de se rapporter au bureau du ministère de l'Environnement le plus proche en vue de se faire recenser.
Enfin, on a appris hier qu'un mandat d'arrêt avait été émis à l'encontre de l'ancienne première dame Martine Moïse.
Oui, Martine Moïse est sous le coup de ce mandat d'arrêt émis par le juge Walter Wessner Voltaire dans le cadre de l'instruction du dossier de l'assassinat de son mari, Jovenel Moïse. Martine Moïse se trouvait avec Jovenel Moïse à l'intérieur de leur résidence lors de l'attaque le 7 juillet 2021. L'ancienne première dame avait auparavant décliné une demande de comparution devant un juge d'instruction et avait plutôt exigé le dessaisissement de ce magistrat instructeur. L'ordre d'arrestation émis depuis novembre dernier a été rendu public peu après la date d'expiration du mandat de 3 ans du juge Voltaire, soit le 26 janvier. Dans le mandat qui est rendu public, on parle d'assassinat, d'association de malfaiteurs, de tentative d'assassinat et de vol à main armée.
Nous vous parlions en fin de semaine dernière de ces chiffres dramatiques sur le nombre de déplacés dans le pays. Plus de 310 000 personnes. Et l'Organisation internationale des migrations précise que la moitié de ces personnes ont été déplacées pendant la seule année 2023. Parmi elles, les habitants de Carrefour-Feuille, aujourd'hui livrés à eux-mêmes dans des bâtiments publics de Port-au-Prince. Cela fait 6 mois quasiment qu'ils ont fui la violence des gangs pour se réfugier dans des zones à peine plus sûres. Et notre correspondante a pu les rencontrer. Reportage, Marie-Andrée Bélange.
À première vue, dans la rue Docteur Audin, au cœur de Port-au-Prince, rien ne laisse deviner un lieu qui accueille des déplacés. Mais il suffit de pousser la barrière du lycée Marie-Jeanne pour constater une cour remplie de tentes. À l'entrée, deux jeunes femmes assises discutent. La plus âgée vit avec ses enfants et son mari dans le camp depuis le mois d'août dernier.
J'ai quatre enfants. Je n'arrive pas à prendre soin d'eux. Je ne peux plus les envoyer à l'école comme les autres enfants. Ils n'ont pas de vêtements, je ne peux pas les nourrir. L'un d'entre eux n'a pas de sandales depuis plusieurs mois, je ne peux pas lui en acheter.
Elle résidait dans sa propre maison à Carrefour-Feuille où elle avait des activités commerciales pour prendre soin de ses enfants. Elle a été violemment expulsée de chez elle.
Ils ont tout pris, ils m'ont battue et violée. Voici la cicatrice dans mon dos. Il y en a aussi sur ce côté de mon visage. J'ai une douleur récurrente sur ce côté-là et cela affecte aussi mon œil. Il ne me reste plus rien. Je ne peux plus continuer mes activités commerciales.
Dans le camp, elle vit dans des conditions déplorables. La seule chose qui ne manque pas, c'est l'eau.
Ma famille et moi dormons dans la cour à la Belle Étoile car je n'ai pas de tente. Quand il pleut, je dois attendre que ça passe pour pouvoir me coucher. Le Programme alimentaire mondial et la mairie de la ville avaient l'habitude de nous apporter à manger tous les jours, mais cela fait un moment qu'ils ne viennent plus. Je vis grâce à de bons samaritains. Parfois, on se lève et on s'endort sans rien manger.
Elle se sent abandonnée et humiliée.
Je suis comme quelqu'un qui n'a pas de famille. Personne ne vient me voir. Les autorités nous ont oubliés. On n'a jamais reçu de visite. On n'a rien reçu.
À l'instar de cette dame, Joanne espère retourner chez elle dans le quartier de Savane-Pistache.
Moi, je ne veux pas que les autorités ou des organisations viennent me donner de l'argent pour louer une autre maison. Les autorités doivent assumer leurs responsabilités. Le Premier ministre Ariel Henry doit prendre des dispositions pour mettre fin aux actions des bandits afin que nous puissions retourner chez nous. Je suis née et j'ai grandi à Savane-Pistache. Tout ce que je possède se trouve dans ce quartier. C'est le lieu où je me sens à l'aise, là où je peux faire du commerce.
Dans la voix de Joanne, un mélange de colère et de rage. Elle est remontée contre les membres du comité de gestion du camp.
On nous avait apporté des bâches pour nous protéger contre la pluie. Ils ont tout pris, on n'a rien reçu. La plupart d'entre nous dorment dans la cour, à la Belle Étoile. Pour se laver, on s'est arrangé avec un morceau de tissu. Les hommes, eux, se lavent n'importe où sur le camp.
Retourner chez eux et reprendre leur vie quotidienne, c'est tout ce que veulent ces déplacés.
On se sent fatigué, on n'en peut plus. On doit se nourrir, prendre soin de nos enfants. Je ne peux plus continuer à accepter cette humiliation alors que j'ai ma propre maison. J'ai appris que des bandits armés l'occupaient. Ariel Henry fait quelque chose, on n'en peut plus.
Pendant ce temps, les attaques meurtrières se multiplient dans le pays alors que des familles continuent de fuir leur domicile pour échapper à la terreur des gangs armés.
En Haïti, la situation continue de se dégrader un peu plus chaque jour. On le constate notamment en lisant la presse haïtienne, Achim Lippold. Les journaux reviennent par exemple sur les récents affrontements entre gangs dans le centre-ville justement, où ont trouvé refuge beaucoup de ces habitants de Carrefour-Feuille que l'on entendait il y a un instant. Des groupes qui composaient la coalition G9 ont échangé hier des tirs nourris, et ce, Achim, avant une grève générale annoncée pour ce lundi dans plusieurs villes d'Haïti.
Oui, exactement. C'est allié dans le Nouvelliste, entre autres. C'est la brigade syndicale anticorruption qui est derrière cette initiative de la grève, selon le responsable de cette association, Sanson Edoumé, qui s'exprime dans le Nouvelliste. Eh bien, cette grève est lancée pour exiger des mesures de la part des autorités pour apporter des solutions à la crise sécuritaire. Sanson Edoumé explique que les employés du secteur des transports sont concernés par l'insécurité qui règne sur toutes les routes nationales. Il dit avoir interpellé les autorités via différents moyens, mais poursuit-il, puisque nos cris sont restés lettres mortes, nous allons entrer en grève. En tout cas, cette grève intervient, vous l'avez dit Anne, alors que Port-au-Prince était encore une fois le centre d'affrontement entre gangs. C'était hier, dimanche. Il s'agissait effectivement des hostilités qui ont repris entre les différentes factions qui composaient la coalition G9, écrit le Nouvelliste.
Et il y a un autre facteur de trouble potentiel, c'est l'appel du parti Réveil National pour la Souveraineté Nationale qui lance le début de la révolution.
Oui, le journal Gazette Haïti principale d'une offensive contre le gouvernement. Lors d'une conférence de presse hier, le parti a prédit, je cite, une journée difficile à Port-au-Prince, demandant aux parents de garder les enfants à la maison et aux employeurs du secteur bancaire ne pas aller travailler. Le journal précise que le parti Réveil National soutient Guy Philippe, un ancien militaire qui a été condamné aux États-Unis à 6 ans de prison pour blanchiment d'argent et trafic de drogue et qui appelait les Haïtiens et l'armée à se soulever contre le gouvernement.
Nayib Bukele, ultra favori à la présidentielle au Salvador. Il s'était fait élire sur un programme de lutte contre la pauvreté et la criminalité en 2019. La politique qu'il a lancée depuis a conduit plus de 70 000 personnes en prison, étouffé les voix dissidentes selon plusieurs ONG, mais n'affecte pas sa popularité selon RFI.
Décryptage de la présidentielle au Salvador et du succès annoncé de Nayib Bukele dimanche prochain. Sa guerre lancée contre le crime organisé il y a 2 ans maintenant l'a rendue très populaire. Et tant pis, Christophe Pagès, si elle a entraîné le placement en détention de plus de 70 000 personnes ou encore servi à étouffer les voix dissidentes, comme le dénoncent les ONG.
Oui, Nayib Bukele s'était fait élire en 2019 sur un programme de lutte contre la pauvreté et contre la criminalité. Cette fois, il n'a quasiment pas fait campagne. Carlos Carcach, économiste et criminologue, coordinateur du Centre de politique publique à l'École supérieure d'économie et de commerce de Santa Tecla, au Salvador.
Pour le moment, le seul thème que j'ai pu noter, c'est la sécurité publique et l'appel du président à la population à ne pas élire des députés de l'opposition, parce que cela menacerait toutes les politiques de sécurité publique qu'il a mises en place. Pour ce qui est des autres thèmes, il n'en a pas parlé. En fait, il ne fait pas campagne de manière ouverte. Je présume qu'il pense avoir déjà gagné l'élection avant qu'elle n'ait eu lieu.
Pourtant, Christophe, pour certains, la candidature du président est illégale.
Oui, selon la constitution salvadorienne, un président ne peut pas faire 2 mandats consécutifs pour éviter qu'un populiste ne s'installe au pouvoir. Ce qui n'a pas gêné longtemps Nayib Bukele. Benjamin Moalic, chercheur associé au Centre d'études mexicaines et centra-américaines de Mexico.
En 2021, il y a eu des élections législatives où il a remporté une majorité écrasante. Au premier jour de fonction des députés de son parti, Nuevas Ideas, ils ont démis les juges de la Cour constitutionnelle, qui ont été aussitôt remplacés par des juges favorables à Nayib Bukele, qui ont interprété la Constitution, puisque le président ne pouvait pas se représenter immédiatement à la fin de son mandat. Donc, ils ont fixé un laps de temps, 6 mois, dans lequel il démettait de ses fonctions. Il a passé d'ailleurs le pouvoir à une personne qui lui est proche, et donc il pouvait se représenter par ce tour de passe-passe.
Et cet arrangement, apparemment, ne pose pas de problème à la population.
Ce que les Salvadoriens voient, c'est que la criminalité a énormément baissé, même si, dénoncent les ONG, nombre de leurs droits ont disparu avec l'état d'exception. Et même si le président s'est concentré sur la répression et pas sur les causes de l'existence des pandillas, les bandes armées. Quant à l'économie, elle reste mal en point. Lorsque le président Bukele est arrivé au pouvoir, 30% de la population vivait sous le seuil de pauvreté. Selon Carlos Carcach, c'est pire aujourd'hui. Son programme économique a été assez pauvre, estime Benjamin Moalic.
Il a d'abord misé sur le Bitcoin. Finalement, l'effondrement des cours du Bitcoin n'ont pas permis que le Salvador devienne une plateforme économique, financière, autour de cette monnaie digitale. L'autre pari, c'est de faire du petit pays une attraction touristique. La cessation des violences fait envisager la possibilité d'un retour ou d'une première venue de touristes. Pour l'instant, c'est encore très timide, puisqu'il y a d'autres pays à côté qui, eux, ont une tradition touristique. Le Guatemala, le Costa Rica. Et puis, réduire la pression que mettait l'insécurité sur les investissements étrangers. Or, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'arrivée massive d'investissements étrangers dans le pays.
Entre l'économie et les problèmes de droits humains, l'opposition a de quoi faire campagne, mais elle n'arrive pas à se faire entendre. Carlos Carcach.
L'ARENA et le FMLN, les deux principaux partis d'opposition, ne jouissent que d'une très faible confiance de la majeure partie de la population. Bukele a renforcé le message selon lequel ils ont promu la corruption quand ils étaient au pouvoir et que c'est à cause d'eux que le pays est dans la situation actuelle. Résultat, les gens ne les écoutent pas et ne les croient pas. Et avec le régime d'exception, il y a beaucoup de voix qui auraient pu critiquer les irrégularités commises par le gouvernement qui se sont tues par peur. Bukele a créé une atmosphère au travers de laquelle il a réussi à faire taire quelque opposition que ce soit. La majeure partie de la population, qui n'a pas un niveau d'éducation très élevé, ne saisit pas l'ampleur de ce qui se passe. Elle estime que le président est en train de régler le problème de sécurité et qu'elle est plus tranquille. Elle ne se rend pas compte que le président concentrant plus de pouvoir, la démocratie va disparaître et qu'on va se diriger vers un gouvernement de type autoritaire.
Le premier tour de la présidentielle, c'est donc dimanche prochain, en même temps que les législatives. S'il y a un second tour, éventuellement, ce sera le 3 mars, en même temps que les municipales.
Au Venezuela, pour débarrasser l'immense lac de Maracaibo du pétrole qui le pollue, des fuites venues de plus de 8000 puits installés autour et sur le lac, plusieurs associations ont lancé le projet Sirena, qui consiste dans la mise en place de boudins comme des barrières, filtrant les déchets et les nappes de pétrole grâce à sa composition en cheveux, analyse le biologiste Randy Guerrero pour RFI.
Notre dossier du jour qui nous emmène ce mardi sur les rives du plus grand lac d'Amérique latine, au bord du lac Maracaibo, au Venezuela. On y trouve une faune et une flore absolument exceptionnelles, mais contaminées petit à petit par des fuites de pétrole venues des plus de 8000 puits que l'on trouve autour et sur le lac. Les traces de pétrole, elles sont partout, mais un projet un peu particulier a été mis en place pour essayer d'améliorer la situation. Ce sont des barrières composées de cheveux et de poils d'animaux censés absorber le pétrole. L'idée a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, mais les effets sont-ils à la hauteur du buzz? Notre correspondante Alice Campagnol est allée voir. Reportage.
Sur le lac de Maracaibo, difficile de trouver une plage propre, sans déchets et surtout sans pétrole. Parfois, de véritables marées noires envahissent des kilomètres de côte. Parfois, ce sont de simples taches, comme ici, en plein cœur de la ville de Maracaibo, sur la rive d'une station de sport nautique.
Les taches noires que vous voyez sur les troncs, sur les pierres, sur les rives en général, et même sur les plantes, c'est du pétrole. Et ça arrive tous les jours. Les personnes en charge de l'entreprise pétrolière publique nous disent que c'est normal.
Pourtant, ici, une équipe nettoie la plage tous les jours. Adelso Pineda propose des excursions en kayak et travaille avec plusieurs associations de protection de l'environnement qui cherchent des solutions à leur échelle.
Ici, nous avons un exemple de ce que nous avons pu récolter sur nos rives avec des prototypes. Ça, c'est un boudin qui fonctionne comme une barrière. Et avec, nous arrivons à récolter 5 fois son poids. C'est incroyable la puissance d'absorption des cheveux.
Ces filtres faits de cheveux humains et de poils d'animaux sont ceux du projet Sirena mené par Selene Estrach.
Si l'on regarde un cheveu à l'œil nu, il nous paraît lisse. Mais au microscope, on voit en réalité des tas d'écailles. Et c'est là que les liquides huileux peuvent être emprisonnés. Donc le cheveu fonctionne comme une éponge. Nous faisons deux types de dispositifs, les boudins ou les barrières, qui en fait sont des filets à usage médical que l'on remplit de cheveux. Et le boudin fait barrière pour que les nappes de pétrole ne se répandent pas. En général, on fait en sorte d'enfermer ces nappes qui sont donc absorbées par ces boudins. Et il y a le dispositif en forme de tapis, composé de cheveux plus longs que l'on passe dans une machine, qui est semblable aux machines qui tissent le feutre, et donc cette machine qui tisse les cheveux. C'est comme faire une dreadlock, mais plate et en plus grand. Nous en sommes à peu près à 800 kg de cheveux récoltés, alors que nous en sommes toujours à l'étape des essais.
Un projet qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, des centaines de salons de coiffure se sont portés volontaires pour collecter des cheveux, mais en réalité l'association n'a pas encore les autorisations nécessaires pour installer les filtres et Sirena ne s'attaque qu'à la partie émergée de l'iceberg. Randy Guerrero, biologiste à Maracaibo.
On a beaucoup parlé du projet Sirena, mais ces dispositifs ne peuvent pas ramasser l'ensemble du pétrole qui fuit dans le lac, seulement les parties visibles. Le fond du lac, que l'on ne voit pas, est très impacté par les marées noires. Et il est difficile de savoir dans quelle mesure les sols sont touchés. On n'en sait rien. Mais une chose est certaine, les nappes descendent jusqu'aux sédiments et restent dans les réseaux tropiques. Le pétrole s'installe dans les organismes, des plantes aquatiques, du zooplancton, des mollusques. Et puis il y a aussi ce qui se volatilise, qui remonte jusqu'à l'atmosphère et ensuite tombe sur la Sierra par la pluie. Et là, personne n'a étudié cet impact-là.
Le premier pas pour régler les problèmes du lac de Maracaibo serait de réparer l'ensemble des quelques 28 000 km de pipeline sous-marin qui le quadrille. Le projet Sirena est une goutte d'eau donc dans le désastre environnemental en cours, mais il a permis au moins de sensibiliser les Vénézuéliens à la question de la pollution du lac.
La Bolivie dispose des plus grandes ressources de lithium au monde, ce matériau indispensable pour la fabrication des batteries d'ordinateurs ou téléphones portables. Depuis des années, les autorités essayent de structurer le secteur, d'industrialiser la filière du lithium, mais les avancées et les retombées sont bien faibles, analyse le chercheur Gonzalo Mondaca, interviewé sur Radio France Internationale.
La Paz, 106.9 FM.
Après notre dossier du jour qui nous emmène en Bolivie, au cœur du plus grand désert de sel du monde, en partie recouvert aujourd'hui par d'immenses bassins sur des kilomètres, bassins pour l'évaporation du lithium. Ce matériau est utilisé pour fabriquer des batteries d'ordinateurs ou de téléphones portables. Cela fait 15 ans maintenant que les autorités boliviennes travaillent à l'industrialisation de la filière, avec notamment le mois dernier l'inauguration de la première usine de carbonate de lithium. Mais au-delà de l'affichage, l'industrie crée en fait peu d'emplois locaux et les retombées économiques sont quasiment nulles pour les habitants, comme on peut l'entendre dans ce reportage de notre correspondant Nils Sabin.
La Bolivie et son désert de sel, le Salar de Uyuni sont à la fête. Après des années de travaux et de retard, c'est enfin le jour de l'inauguration pour la première usine de carbonate de lithium du pays. Président, ministre, député, gouverneur du département, tout le monde s'est déplacé au milieu de l'immensité saline et beaucoup le répètent, c'est un jour historique. Franklin Molina Ortiz, ministre des hydrocarbures et de l'énergie.
Il ne s'agit pas seulement de produire du lithium. Il est évident que cette production va apporter beaucoup de bénéfices pour l'emploi, l'activité économique et l'industrie dans la région de Potosí.
Pourtant, depuis le lancement de la filière lithium il y a 15 ans, l'emploi local n'a pas été la priorité du gouvernement. Exemple à Rio Grande, le village le plus proche de l'usine. Ici, quelques camions tachés de sel arrivent du Salar, mais les traces de l'industrie du lithium sont rares. Et quand on demande au maire s'il y a beaucoup d'emplois locaux liés à l'usine, sa réponse est lapidaire.
Eh bien, à l'échelle de notre communauté, ce n'est pas grand-chose, mais nous nous occupons du service des transports, ce qui a permis de créer un emploi.
Mais Edgar Mamani se veut optimiste.
Avec la taille de l'usine, c'est sûr qu'il va y avoir des retombées économiques, des royalties ou autres.
Un espoir qui relève du mirage pour Donny Ali, le fondateur et gérant de l'hôtel lithium de Rio Grande. Un établissement créé en 2014, quand une partie des installations industrielles devait être construite près de la ville.
Je voyais qu'il y avait besoin d'une sorte de campement pour loger les ingénieurs, les techniciens, d'où l'idée de créer cet hôtel pour accueillir les personnes venant travailler ici.
Finalement, l'usine est construite dans le Salar, les employés logés sur place, et même pendant leur jour de repos, ils ne viennent pas à Rio Grande, au grand dam du gérant de l'hôtel.
Ils vont s'approvisionner directement à Uyuni en coupant par le Salar. Ils évitent la piste en terre qui est plus longue, donc il n'y a vraiment pas de développement économique ici à Rio Grande.
L'inauguration de l'usine devrait doper les exportations de lithium et les revenus en 2024, mais pour le moment, la Bolivie est encore loin de l'Eldorado promis depuis tant d'années. Pour Gonzalo Mondaca, chercheur spécialisé dans l'extraction de lithium, parler d'industrialisation en Bolivie est même trompeur.
L'usine qui vient d'être inaugurée produit de la matière première, le carbonate de lithium à échelle industrielle. Mais elle ne crée pas de produits dérivés du lithium, donc on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un processus d'industrialisation.
Il n'empêche, depuis la création de la filière lithium en 2008, le gouvernement maintient son projet ambitieux, industrialiser le secteur pour vendre des produits à forte valeur ajoutée. En clair, ne pas se contenter d'exporter de la matière première, mais produire des composants pour batteries et même des batteries boliviennes. Une manière de ne plus dépendre des prix internationaux des matières premières, mais jusqu'à maintenant, les projets autour des batteries ne dépassent pas le stade de la recherche ou de l'usine pilote. Gonzalo Mundaca.
Passer de la phase d'expérimentation à la production industrielle de matériaux cathodiques ou de batteries demande beaucoup d'investissement et de spécialistes, bien plus que pour la production de matières premières.
Des investissements qui n'ont pas été annoncés pour le moment. L'entreprise d'État chargée du lithium communique très peu, ou alors seulement pour célébrer en grande pompe telle ou telle avancée. Mais il faudra encore plusieurs années avant que la Bolivie arrive sur le marché des batteries.
Le site mondialement connu du Pérou, les ruines du Machu Picchu, a été fermé pour grève pour protester contre la privatisation de la vente des billets d'entrée.
C'est l'un des sites les plus photographiés, les plus visités au monde. Le Machu Picchu au Pérou est fermé. Fermeture temporaire à Chimlipold à cause d'un mouvement social.
Oui, et cela fait bien sûr la une de la presse péruvienne. Jeudi dernier, le personnel touristique du site s'est mis en grève pour protester contre ce qu'il considère une privatisation des billets d'entrée. En fait, le ministère de la Culture a décidé de prendre un prestataire privé pour gérer la vente des billets en ligne, ce que les manifestants considèrent comme un premier pas vers la privatisation du site. Hier, les grévistes ont suspendu le mouvement pendant 24 heures afin de s'asseoir autour d'une table avec les représentants du gouvernement et trouver une issue au conflit. C'est à la une du journal El Comercio. Les manifestants exigent l'annulation du contrat avec le prestataire privé et la démission de la ministre de la Culture. Le dialogue est lancé, titre de son côté le journal La Repubblica, mais impossible de savoir s'il portera ses fruits ou non, car selon le quotidien, il n'est pas question pour le gouvernement de faire marche arrière et de renoncer aux prestataires privés.
Non, et le Premier ministre l'a répété hier, écoutez.
Un groupe de trois ministres, mené par le ministre de la Culture, a fait tous les efforts possibles pour rompre avec une mafia qui a utilisé illégalement cette question des billets. Et nous ne reculerons pas devant la nécessité de changer ce modèle de corruption qui fonctionne illégalement depuis de nombreuses années.
Le Premier ministre péruvien a rappelé aussi qu'il était interdit et sévèrement puni par la loi de bloquer l'accès au patrimoine de la nation. Mais en attendant la réouverture du Machu Picchu, Arim, plus d'un millier de touristes ont été évacués ces derniers jours.
Oui, des touristes péruviens et étrangers, évidemment, comme par exemple cette Brésilienne interviewée par le journal La Repubblica. Elle s'appelle Michelle et se dit très triste de ne pas pouvoir visiter le site Inca, une destination qu'elle avait choisie exprès pour y fêter son anniversaire.